Bonjour, bonjour Yves, au micro-micro de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition en vous apprenant ou en vous rappelant que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent sur toutes sortes d'écrans maintenant. Et je vous rappellerai cela, je ne le fais pas à chaque fois, que notre générique est bien évidemment une musique de film, en l'espèce un extrait de la bande originale de Breakfast at Tiffany's, en français on ne sait trop pourquoi, Diamant sur canapé, une petite merveille tournée en 1962 par Blake Edwards avec Audrey Byrne et George Peeple dans les rôles principaux, et à la baguette eh bien notre délicieux, inoubliable et regretté Henry Mancini pour ce Moon River qui est depuis eh bien un grand classique non seulement de la musique de film mais aussi du jazz et hélas de la publicité. Ce jour dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons consacrer notre émission, nous allons rester outre-Atlantique justement, et consacrer notre émission à une des plus pétulantes actrices américaines des années 60 à 90 et même aujourd'hui, puisque la brave dame est toujours parmi nous et on s'en réjouit, en l'espèce Shirley MacLaine Beattie, de son vrai nom, née le 24 avril 1934 à Richmond dans le Virginie, et qui, pour son petit nom de scène, et peut-être l'avez-vous déjà deviné, choisit de se faire appeler Shirley MacLaine. Mais si j'ai mentionné son vrai premier nom, Shirley MacLaine Beattie, eh bien c'est pour dire que Shirley a un frère, et que ce frère est tout aussi connu qu'elle, puisqu'il s'agit de Warren Beattie lui-même. Imaginez être les heureux parents de Shirley MacLaine et de Warren Beattie. Il y en a qui ont quand même bien réussi leurs enfants. Shirley, eh bien ses parents, justement, papa est plus ou moins chef d'orchestre et maman plus ou moins comédienne, ce qui fait que dès leur plus jeune âge, Shirley, comme son frère Warren, baigne dans tout ce qui peut être artistique et que, eh bien, très rapidement, Shirley se tourne vers la danse classique et commence sa carrière dans les, à peu près vers sa vingtaine, à Washington, dans une comédie musicale, un musical, comme on dit là-bas, qui s'appelle Oklahoma, qui a été adapté d'ailleurs au cinéma. Et c'est dès cette époque-là, donc dès ses débuts, qu'elle adopte cette fameuse coiffure à la garçonne qui sera une de ses marques de fabrique et qui ne la quittera plus, pour un détail pratique, puisque quand elle dansait et sautait, eh bien ses cheveux remontaient dans son visage. Très rapidement, elle progresse et en 1954, eh bien, elle double et elle remplace au pied levé, comme on le voit aussi dans des films, la vedette principale d'un autre musical, lui aussi adapté au cinéma, The Pyjama Game, qui est chorégraphié par le grand Bob Fosse à Broadway. Et là, vraiment, c'est une histoire de cinéma. Non seulement, eh bien, elle remplace au pied levé Carol Haney, mais en plus, il y a dans la salle rien moins qu'Alfred Hitchcock qui décide de lui donner un rôle dans ce qui va être son premier film, Mais qui a tué Harry, un film signé Alfred Hitchcock, donc tourné en 1955 et dont nous avons, ça tombe bien, la bande originale de laquelle nous allons écouter un petit extrait dans quelques secondes. Mais qui a tué Harry, 24 notes secondes, Alfred Hitchcock.
Thank you.
une petite et très courte merveille qui était évidemment signée, je ne l'ai pas précisé, avant d'en écouter un extrait, Bernard Herrmann, dont on reconnaît parfaitement le style. Quand on l'aime, Bernard Herrmann, qui fut donc le partenaire d'Alfred Hitchcock, ici dans Mais qui a tué Harry, pour un certain nombre de films, La mort aux trousses, Psychose, ai-je besoin de le mentionner, Surfroid, quelques chefs-d'œuvre de la collaboration entre un musicien de film et un réalisateur, même si cette collaboration, comme souvent, Bernard Herrmann, pas plus qu'Alfred Hitchcock d'ailleurs, n'était réputé pour avoir des tempéraments, disons, conciliants, eh bien cette collaboration fut des plus orageuses. Mais comme souvent les collaborations orageuses, elle donna des résultats magnifiques. Et c'est le cas de cette partition un peu en, comment dire, en sous-entendu pour un film qui n'était pas moins, puisque Mais qui a tué Harry, tourné par Alfred Hitchcock, c'est mieux, juste après La main au collet, où on voyait Cary Grant et Grace Kelly dans un récit étincelant quelque part à Monaco. Eh bien, Mais qui a tué Harry est une sorte de comédie à l'anglaise qui se passe en automne et avec une magnifique photographie signée Robert Burks, et où en fait il y a, je fais un peu le spoiler, mais on croit qu'il y a au départ un meurtre et en fait on se rendra compte que non. Alors là c'est vraiment très peu Hitchcockien d'ailleurs, le film fut beaucoup boudé par le public américain et il rencontra par contre... Et là, il faut s'en féliciter pour une fois, un grand succès en France, où il contribua très largement à faire d'Alfred Hitchcock, qui en 1956 était loin d'être un réalisateur débutant, eh bien, ce sommet de la cinéphilie à la française que la consécration du livre que François Truffaut et Alfred Hitchcock, ou plutôt que François Truffaut tirera de ses interviews avec Alfred Hitchcock, eh bien, ce livre fera de Alfred Hitchcock quelque part le symbole du cinéma d'auteur à la française, en tout cas tel qu'imaginé par la cinéphilie française. Et Alfred Hitchcock y figurera en bonne place, même si ce n'est pas aujourd'hui notre héros, puisque c'est Shirley MacLaine, la douce Shirley MacLaine, qui débutait donc à 21 ans dans ce film et qui très rapidement eh bien, va gravir les échelons de la célébrité, puisque cette même année 1955, on la verra dans Artiste et modèle de Frank Tashlin, qui est une adaptation d'un musical. La jeune femme qui avait débuté à 17 ans dans le genre, eh bien, 5 ans plus tard, était déjà une praticienne aguerrie. Et puis en 1956, on la verra, mais comme beaucoup, beaucoup d'autres mondes, dans une super production adaptée de Jules Verne, et plus précisément du Tour du Monde en 80 jours, un film signé de Michael Anderson, mais qui est porté par son producteur, le charismatique Michael Todd, à l'époque mari d'Elizabeth Taylor, mais qui, hélas, décédera dans un accident d'avion quelques années plus tard, je dirais encore très très célèbre, et qui avait donc décidé, pour le Tour du Monde en 80 jours, de réunir une distribution absolument éblouissante, pardonnez-moi, autour de Phileas Fogg, bien sûr, le héros de Jules Verne, incarné par le flegmatique David Niven, et de Passepartout, incarné, alors là, c'est les miracles des productions avec beaucoup de pays, par un comique mexicain qui est sans doute très connu du côté de Mexico, mais qui par contre était complètement inconnu et les restés de reste du monde, et qui s'appelle Cantinflas. Quant à Shirley MacLaine, elle jouait le rôle, si je me souviens bien, d'une danseuse indienne, comme quoi on peut interpréter tout et un peu n'importe quoi, il faut le reconnaître. Aux côtés de Shirley MacLaine, de David Niven et donc de Cantinflas, il y avait, mais alors là j'en prends, allez, 5 au hasard, Fernandel, Frank Sinatra, Marlène Dietrich, Buster Keaton et Victor McLagan. Voilà, mais il y en avait des vingtaines, c'était une grosse production de 2h30 avec une musique qui permit à Victor Young, d'obtenir à titre posthume, le pauvre, l'Oscar. Et évidemment, on va écouter un extrait de cette bande originale, Le Tour du Monde en 80 jours, mais dans 24 notes secondes. Voilà un bel extrait si romantique de la bande originale du Tour du Monde en 80 jours, une musique de Victor Young. Un film, je l'ai déjà oublié, dis donc, de Michael Anderson et avec Shirley MacLaine dans l'un des rôles principaux. Et je pensais, en écoutant cette musique, qu'en fait, elle accompagnait le générique du film qui était réalisé par Saul Bass, l'un des grands créateurs de génériques des années 60, c'est notamment lui, qui a réalisé le générique de Psychose, comme quoi tout ça est un petit monde. Et dans les années qui suivirent, eh bien, Shirley MacLaine rencontra de plus en plus de succès. On la vit en 1958 dans un grand mélodrame, comme il savait en faire, de Vincente Minnelli, comme un torrent, Some Came Running. Et on la vit aussi dans deux chefs-d'œuvre de Billy Wilder. Alors, on va juste écouter un extrait d'un des deux, j'y reviens. Et on la vit aussi dans le Cancan de Walter Lang, où elle interprétait Simone Pistache. Et si je le mentionne, c'est que ça a à voir avec le morceau que nous allons écouter. Et puis, et après j'arrêterai, on la vit aussi dans un film très peu connu de William Wyler, La Rumeur, où elle était aux côtés de la délicieuse Audrey Byrne déjà citée, et bien un couple de lesbiennes victimes justement de La Rumeur. Alors nous étions en 1961. J'aime autant vous laisser imaginer à l'époque l'audace du sujet. Les deux films chefs-d'œuvre que je voulais évoquer, mais dans le premier, il y a d'abord La Garçonnière, un film de Billy Wilder tourné en 1960, où Shirley MacLaine se trouvait aux côtés de Jack Lemmon. Et alors là, Shirley MacLaine, Jack Lemmon, si vous ne riez pas, c'est que vraiment vous êtes désespéré. Ces deux-là avaient une alchimie absolument immédiate et absolument visible sur l'écran. Ce qui fait qu'après ce succès énorme, eh bien Billy Wilder les réunit à nouveau en 1963. Et cette fois, eh bien, il adapta à l'écran un chef-d'œuvre, si l'on veut, plutôt une pièce intéressante de la comédie musicale à la française, et c'est pourquoi je mentionnais tout à l'heure, pardonnez-moi, le rôle de Simone Pistache, puisque Billy Wilder porta à l'écran Irma la Douce. Irma la Douce, qui est l'histoire, eh bien, d'une prostituée, tout simplement, de laquelle est amoureux un policier, avec évidemment plein de péripéties à la française, de la gaudriole et tout ça. Mais là encore, il y avait Jack Lemmon et Shirley MacLaine dans les rôles principaux. Il y avait aussi, dans l'adaptation de la pièce de Messieurs Bréfort et Monod, eh bien Billy Wilder lui-même et I.A.L. Diamond. Alors ceux qui sont des vraiment fidèles de 24 notes secondes se souviendront peut-être que dans une émission déjà bien antérieure, eh bien j'ai dressé l'éloge d'I.A.L. Diamond, puisque l'homme et à l'origine du scénario d'un des films les plus drôles du monde, peut-être le film le plus drôle du monde, Certains l'aiment chaud, de Billy Wilder. Donc de temps en temps, il faut rendre hommage à ces hommes de l'ombre. Voilà qui est fait, mais maintenant, place à la musique, évidemment. Un petit extrait, la musique, elle est signée, plutôt son adaptation, d'André Previn, in English, mais André Previn, notre bien français, Irma la Douce dans 24 notes secondes. Thank you. Voilà un extrait vraiment pétulant. Et ce n'est que le début de la bande originale d'Irma la Douce, un film de Billy Wilder, une petite merveille. Non, une merveille absolue, avec Jack Lemmon et Shirley MacLaine dans les rôles principaux et une très lointaine origine française. Mais évidemment, le film se passe à Paris. J'ai sous les yeux la photo de Jack Lemmon en policier et de Irma la Douce, allais-je dire, de Shirley MacLaine en prostituée devant l'hôtel Casanova. Ça ne s'invente pas, c'est une idée de scénariste américain, mais le film, évidemment, n'a rien de vraiment français, mais par contre, est d'une drôlerie absolue, comme ces deux-là pouvaient le faire. Jack Lemmon, hélas, nous a quittés, mais Shirley MacLaine est toujours là. Alors, je voulais évoquer, on va continuer encore à égrener de façon plus rapide le reste de sa carrière, mais qu'elle s'est loin de s'être contentée d'être une actrice, puisque d'abord, elle a publié au moins 2-3 volumes de mémoires, et puis surtout, dans les années 80, 70-80, où peut-être son succès cinématographique était moins grand, eh bien, Shirley MacLaine est devenue une des gourous, je ne sais pas si ça marche pour les filles, du New Age. Mais oui, c'est ce mouvement un peu bizarre, à mon avis, un peu oublié, puisque maintenant, à nouveau, on fait confiance à la technique, grossière erreur. Eh bien, dans les années 70-80, on essayait de s'épanouir en écoutant des chants de baleines, en buvant du gingembre pur ou en faisant la salutation au soleil, ce genre de choses. Vous pouvez mélanger le tout, c'est-à-dire faire la salutation au soleil en écoutant des chants de baleines. Par contre, je déconseille de boire en même temps de jus de gingembre, vous allez en faire couler partout. Dans les années 70-80, donc, Shirley MacLaine écrivit une dizaine de livres sur la question, et j'imagine bien à l'américaine qu'elle accompagna ses livres de vidéos, interventions, conférences, tout ça qui lui assurèrent, eh bien, une autre célébrité. Mais on ne va pas évoquer plus avant celle-là, on va plutôt retourner à la musique en écoutant un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1969 par Bob Fosse, déjà cité tout à l'heure, puisque Bob Fosse fut dans les années 60 et 80 l'un des plus grands chorégraphe, metteur en scène de musical à Broadway, et qu'on lui doit notamment ce chef-d'œuvre qui est All That Jazz, une sorte d'autobiographie déguisée et désespérée qui obtint la Palme d'Or au Festival de Cannes en son temps. Et en 1969, eh bien, Bob Fosse porta à l'écran un film, porta à l'écran, mais c'est complexe, un musical qui était lui-même adapté d'un film, en l'espèce Les Nuits de Cabiria, un film de Federico Fellini, où l'on voyait une prostituée au grand cœur, incarnée par Giulietta Masina, eh bien, pour le faire simple, se faire avoir. Et donc, Sweet Charity était l'adaptation en musical et aux États-Unis du film de Fellini. Et le film, donc, a été ensuite adapté, mais là, je m'y perds un peu. Sweet Charity, avec Shirley MacLaine, bien sûr, dans le rôle principal de Charity. On en écoute un extrait, et après, je reprends mes esprits. Mais le tout dans 24 notes secondes. Thank you. Waouh, ça c'est du Broadway où je ne m'y connais pas, un extrait de la bande originale signée de C. Coleman, j'avais oublié de le préciser avant de l'écouter, The Sweet Charity, un film de Bob Fosse tourné en 1969, inspiré de la comédie musicale du même nom, elle-même inspirée d'un film de Fellini, Les Nuits de Cabiria, cette fois je l'ai dans l'ordre, le tout pour évoquer la carrière de Shirley MacLaine. Notre émission touche à sa fin, donc on va l'évoquer de plus en plus rapidement. Citer qu'en 1970, eh bien, on vit de Shirley MacLaine aux côtés de Clint Eastwood, mais oui, dans un western goût qui s'appelait Two Mules for Sisters Sarah. Et effectivement, Shirley MacLaine jouait le rôle d'une sœur, mais alors une sœur un peu punchy, comment vous dire. Et c'était un très très bon Clint Eastwood. Je vous le recommande. Ensuite, eh bien, des films un peu plus, je dirais, faciles, mais il faut quand même citer, et après on en restera là, Le Tendre Passion de James L. Brooks, tourné en 1983, puisque c'est à cette occasion que Shirley MacLaine obtint le Graal hollywoodien de l'Oscar de la meilleure actrice. Et on va se quitter en écoutant un extrait de la bande originale d'un film tourné en 2013, et donc il n'y a pas si longtemps, mais la dame est toujours bien là, un film de Ben Stiller, avec Ben Stiller dans le rôle principal, La vie rêvée de Walter Mitty, qui était un remake d'un film des années 60, et un remake, ma foi, plutôt bienvenu. Donc on va se quitter avec une voix que vous allez immédiatement reconnaître, et une chanson que c'est pareil, vous ne pouvez pas l'avoir oubliée, dans 24 notes secondes, La vie rêvée de Walter Mitty.
Ground control to Major Tom.
Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
Ground control to Major Tom.
Commencing countdown, engines on.
Check ignition and may God's love be with you.
Sorry David, bye bye Shirley. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Bye bye.
This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today.